Bonsoir tout le monde et bienvenue aux amateurs de sport en ce vendredi soir, un excellent début de week-end. Accueillons sans plus tarder notre ami Mario Tremblay. Bien bonsoir Mario.
Oui, bonsoir Mario, ça va bien?
Ça va très très bien. Beaucoup de sujets au menu ce soir. Tu le devines qu'on va parler de basketball, de la victoire des Raptors hier dans le match numéro 1 contre les Warriors. Et on va accueillir Bob C. Bob C, comment tu te rappelles de l'expression du centre-ville. Alors, Bob C avec nous ce soir. C'est un des pères du basket au Québec, le dire, il parlait de ça, puis il n'y a pas grand monde qui le suivait dans le temps. On va parler de soccer. Tout à l'heure, Rémi Garde qui va nous livrer ses commentaires sur l'absence prolongée de Nacho Piatti. On aura l'analyse de Vincent Destouches. Bien sûr, Philippe Quentin à 19h. Mais d'abord, Benoît Brunet va nous parler de hockey tout à l'heure. Mais on commence avec toi, mon cher Mario. Et les Blues ont mis leurs pieds à terre dans cette série-là en allant chercher un match à Boston. On se transporte du côté de Saint-Louis. Trouves-tu que ça regarde bien davantage pour les Blues ou les Bruins pour la suite des choses?
Ben écoute, j'avais prédit une série qui va être longue et difficile, mais les Blues, comme tu as mentionné, ce sont les Blues de Saint-Louis. Soyons honnêtes, là, les Blues ont remis leurs habits de travail dans le match numéro 2. Et comme l'a mentionné l'entraîneur des Blues, Bruce Cassidy après la rencontre, les Blues, soyons honnêtes, ont mieux joué que les Blues de Boston dans le match numéro 2. Mais tu sais, à un moment donné, là, quand on voyait le match, j'étais plus nécessairement sûr de Binnington. Il avait accordé un mauvais but. Mm-hmm. Alors, je commençais à être un petit peu inquiet, mais il s'est drôlement repris. Mais tu sais, quand même, puis je regardais justement les mises en échec. Je t'ai mentionné avant le début de cette série-là que les Blues de Saint-Louis, leur stratégie, tout au long de des séries éliminatoires, ça a été quoi? C'est de lancer la rondelle profondément dans les territoires adversaires.
Une guerre d'usure.
Et ramasser les défenseurs adversaires. C'est exactement la stratégie qu'ils ont utilisée dans le match numéro 2. Combien de fois qu'on a vu Crook sur le derrière et d'autres défenseurs. On a vu le Chara aussi, c'était difficile, il a connu une soirée difficile, justement, parce que lorsque tu lui donnes le temps de sortir la rondelle du territoire, il a le temps, mais quand tu mets de la pression, tu es dans son visage à toutes les présences, c'était beaucoup plus difficile pour Zdeno Chara. Alors, c'est un peu ça, le compte-rendu de ce match-là. Alors là, maintenant, les Blues qui vont reprendre l'avantage de la patinoire, ça va être une équipe qui sera pas facile à vaincre, même si j'ai choisi les Bruins en 7, et Benoît Brunet, lui, a choisi les Blues de Saint-Louis, mon chum.
On va dire ce qu'il en dit tout à l'heure, il doit être gonflé à bloc après la victoire dans le match numéro 2. Je parle d'une guerre d'usure, puis de frapper les défenseurs dans la baie vitrée, puis de diriger également les rondelles vers les défenseurs les moins mobiles des Bruins. C'est ça le plus gros ajustement apporté, je pense, par les Blues. Envoyer davantage la rondelle d'un pad d'un Chara plutôt que d'un gars rapide comme Krug, notamment. Ils en ont sorti un. Je dis pas que c'était l'objectif. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé de la mise en échec qui a sorti Matt Grychik dans l'autre match. Moi, je donnais un peu de bénéfice du doute à l'attaquant, même si ça paraît jamais bien un coup à la tête. Et comme déjà Danny hier, s'ils disent un coup à la tête, c'est automatique, ces deux matchs, je vais vivre avec ça, là, je chialerai pas contre ça. Mais sur le jeu, je trouve que de la manière que ça s'est développé, je donnais un peu le bénéfice du doute à l'attaquant des Blues.
Moi aussi, je lui donnais un peu le bénéfice du doute. Mais tu sais, comme on voit souvent dans les séries éliminatoires, là, des fois, on sait pas qu'est-ce qu'on va appeler. Mais définitivement, que lorsque la Ligue a visionné cette séquence-là, on a donné un match. Puis moi, je suis prêt à vivre avec ce match-là de suspension. Mais encore une fois, pour revenir à ce match-là. T'sais, c'est un peu comme dans la série contre Columbus. À un moment donné, on était inquiet de Bergeron, Marchand et Pasternak. Et à un moment donné, quand c'est arrivé le moment propice pour produire, ils l'ont fait. Alors, évidemment, dans le match numéro 2, c'est sûr que Tarasenko a été bon. Le meilleur. Disons comme ceci, les meilleurs joueurs des Blues ont été meilleurs que ceux des Blues de Boston.
Je sais pas si tu vivais ça comme ça quand tu étais joueur, quoi que vous n'étiez pas dans le doute souvent dans tes années de joueur, parce que vous n'en avez pas perdu souvent des matchs, mais même dans tes années d'entraîneur adjoint ou d'entraîneur chef, c'est fou comment une victoire donne confiance à ton équipe, donne confiance à tes partisans. C'est fou comment une défaite ébranle le partisan. Tu sais, tu fais juste allusion au début du match l'autre soir. Binnington donne 2 buts sur 5 lancés. Là, tu te dis, ouais, les Blues, c'est peut-être fini, ont perdu le premier match. Puis ça revire de bord. De l'intérieur, là, ce qu'on sent de l'extérieur, on le vit-tu pareil à l'intérieur d'une équipe, au-delà de ce qu'on dit pour montrer qu'on a toujours confiance en soi?
Moi, je pense qu'on ne vit pas ça de la même façon. Au contraire, du côté des entraîneurs, là, que ce soit entraîneur-chef, entraîneur-adjoint, c'est à nous, Mario, comme les entraîneurs, d'être le leader de cette formation-là. Tu sais, oui, on a eu une défaite, OK, on l'oublie ça, parce que là, il y a un autre match qui s'en vient. C'est une série 4-7. Puis l'important, là, suite à une défaite comme les Blues ont eu, c'est important d'avoir des bonnes séances de vidéo pour amener du positivisme. Tu sais, dire aux gars, écoutez, oui, regardez ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, ce que les Blues ont fait, parce que Boston a encore marqué un but en avantage numérique.
Oui.
Mais c'est pas la fin du monde d'avoir perdu le match numéro 2. Là. C'est sûr que l'avantage de la patinoire s'en va maintenant du côté des Blues de Saint-Louis. Les Blues ont le vent dans les voiles. Sauf que, non, de l'intérieur, là, écoute, puis normalement, les Blues de Boston ont une équipe de caractère. Il y a un bon mélange de vétérans, de jeunes joueurs. Alors, c'est pas le moment de paniquer. Je pense que ça panique pas mal plus dans la population qu'à l'interne, dans l'équipe à l'interne.
Est-ce que t'aimes Carl Gunnarsson à la ligne bleue des Blues de Saint-Louis depuis le début des séries? Il a marqué un gros but l'autre soir, lui-là. Puis je t'en parle parce que c'est sûr que c'est pas un genou, là, 32 ans. Mais lui, il va être libre comme l'air, là, quand la période d'autonomie va commencer. Puis c'est un nom parmi tant d'autres, parce que peut-être qu'on s'excite pour rien trop souvent, mais il me semble qu'il n'y a jamais eu autant de noms disponibles. On parle d'offres hostiles, autant pour des agents libres avec restrictions. Il y a les joueurs autonomes sans restrictions, comme Gunnarsson et tant d'autres qui seront disponibles. Penses-tu que Marc Bergevin se prépare ou prépare quelque chose? Il y en a qui lui prêtent l'intention de préparer quelque chose.
Ben, c'est sûr que Marc doit préparer quelque chose, parce que moi, j'ai toujours trouvé que le plus gros travail que Marc Bergevin a effectué a été durant la période estivale. C'est là que ça se passe. Puis comme plusieurs directeurs gérants, dont entre autres David Poile. J'écoutais David Poile il y a quoi, il y a à peu près une dizaine de jours passés dans une entrevue.
Oui.
Puis il s'est pas caché pour dire que il y a pas d'intouchable chez les Prédateurs de Nashville. Il dit n'importe qui peut échanger, parce que l'année passée, on a manqué notre coup. J'ai été très déçu. J'ai des améliorations à faire. Je vais les faire. Puis à un moment donné, encore une fois, on lui a posé la question, à savoir est-ce que Piquet-Souban pourrait échanger. Il dit il n'y en a pas d'intouchable. Alors c'est sûr que si David Poile, lui, il a un plan de match en tête. Vous avez le nouveau prochain contrat de Roman Rossi qui s'en vient. Alors, il n'y aura pas trop d'espace sur le cap salarial. Alors, moi, je m'attends à ce que, je ne sais pas si c'est piqué, mais il va y avoir des gros noms à Nashville qui vont changer d'équipe. C'est sûr et certain, parce que...
Même Piqué a l'air à se faire à l'idée. Tu le vois où, Piqué? Quelle équipe pourrait-il aider? Mettons qu'il revient se mettre sa forme la saison prochaine. C'est un gars quand même qui peut offensivement causer du dommage sur l'attaque massive.
C'est sûr que Piqué est un joueur d'élite, là, comme tu as mentionné l'année passée. Il a été blessé, il n'a pas connu une grosse saison. Mais c'est sûr que il y a des équipes qui vont certainement montrer de l'intérêt envers Piquet-Souban. Lorsque Piquet est en santé, comme j'ai dit, il peut être un joueur d'élite sans aucun problème. Alors maintenant, il y a eu des rumeurs à Mané qui circulaient à Philadelphie. Mais là, quand Michel Therrien est allé là avec Alain Vigneault, est-ce que...
Verrait-il ça? On sait jamais.
On sait jamais. Regarde, à un moment donné, les gars se rencontrent, puis... Je sais pas, qu'est-ce que Michel Therrien va dire à Alain Vigneault, parce que je sais que quand il était entraîneur du Canadien, il en a eu ben le ras-le-bol de Piquet-Souban entre nous autres, là. Alors, mais ça fait rien, là, c'est des temps nouveaux. Si les Flyers veulent s'améliorer, on parle des Kings de Los Angeles également, Piquet serait quand même un bon vendeur avec les Kings de Los Angeles. Alors, personnellement, je m'attends à ce que Piquet-Souban soit échangé.
Moi aussi, et je pense que lui aussi. Puis d'ailleurs, Poile, quand il parle comme ça, là, je pense qu'il va faire pas mal ce qu'il dit, parce que l'année d'avant, il avait dit qu'il en ferait pas de changement, qu'il donnerait une autre chance à son noyau. C'est ce qu'il a fait. Il est allé chercher des joueurs à date limite des transactions pour bonifier un petit peu, mais finalement, ça n'a pas marché. Alors là, il sent qu'il faut brasser faut brasser la soupe, tout simplement.
Mais tu vois, Mario, des fois, la fenêtre est ouverte, hein. Puis il y a deux ans passés, là, un peu tout le monde, comme moi, là, on prédisait une victoire de la Coupe Stanley de Nashville. Puis dans le fond, moi, j'ai beaucoup de respect pour David Poile. C'est un monsieur avec beaucoup de classe. C'est un directeur gérant qui a énormément d'expérience. Il a jamais gagné la Coupe Stanley. Il a passé proche, mais il a jamais gagné la Coupe Stanley. Alors, tu sais, puis ça fait quoi, 30 d'années qu'il est directeur gérant dans la Ligue à Washington. À Nashville, il est là depuis quand même très longtemps.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est pas garanti de gagner une Coupe Stanley.
Même si tu fais une bonne job de tout gagner, là. Ah, imagine, tu sais, prends Saint-Louis, ils ont jamais gagné. Puis quand on rappelle le fait qu'ils ont participé à 3 finales de suite, c'était même pas au mérite. C'est parce que la manière que la Ligue était structurée à l'époque, c'est que tu avais la division des clubs de l'expansion qui affrontaient. La vraie finale, c'était la demi-finale dans l'autre division, dans le fond. Parce que la finale contre un club d'expansion, ça a jamais donné grand-chose. Et ces équipes-là n'étaient pas du calibre des autres, hein, en quelque sorte. Il avait participé à 3 finales de suite dans le temps et il s'était fait clencher en 4 matchs. C'était pour ça que c'était leur première victoire de l'histoire des Blues dans une finale de la Coupe Stanley. Mais prends les Maple Leafs de Toronto, là. Je sais pas si les Raptors vont gagner le championnat. Les Blue Jays ont eu le temps de gagner des championnats. Ils sont revenus en série, puis les Leafs n'ont rien fait depuis 67, Mario.
Imagine, c'est incroyable. Puis moi, les Leafs, c'est une bonne jeune équipe. Ils ont de bons jeunes joueurs talentueux. Mais là aussi, il va falloir brasser la soupe, comme tu disais tantôt, quand David Poile l'a fait à Nashville. Parce que les Toronto, avec l'équipe qu'ils ont, oui, c'est des beaux flashs, mais ils n'ont pas l'équipe bâtie pour gagner une Coupe Stanley. Je m'excuse, là. Pour moi, les Blues de Boston ont trop de joueurs pareils dans leur formation, de bons joueurs d'avant, on va le dire, là, des joueurs talentueux, mais ils manquent de profondeur, puis ils manquent de bons défenseurs. Alors, il y a le directeur gérant à Toronto a beaucoup, beaucoup de travail à faire aussi. Tu vois comment c'est dans le monde du hockey, là? Puis moi, je pense que les Blues de Saint-Louis et les Blues de Boston sont fort possiblement les deux meilleures équipes pour se retrouver en finale. Mais les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe, là, regarde, défenseurs. Oui, il y en a une couple de défenseurs plus âgés, mais ils sont rapides. Et c'est la grosseur de cette équipe-là qui m'impressionne. Tu sais, tantôt, je te disais
c'est quelque chose.
Tu prends Tarasenko, là. C'est un train, c'est un troc avec le talent qu'il a. Le but qu'il a marqué du côté du revers, là, c'est toute beauté. Alors, c'est un peu ça de faire des formations pour gagner une Coupe Stanley. Ça prend du temps, puis ça prend du talent. Alors, ça prend
de la détermination. Puis sais-tu quoi? À Saint-Louis, là, ils pensaient que la fenêtre était passée parce que c'est une équipe dont on pensait qu'elle était capable de gagner la Coupe. Ça fait des années qu'on disait ça. Plus personne ne les attendait. Ils étaient dans le cadre du classement. Puis ça arrive quand? Ça arrive l'année qui touche au fond du classement. Essaye de comprendre quelque chose, Mario, là-dedans.
T'sais, le monde du sport, mon Mario, là, maintenant, là, faut plus ne se surprendre de rien. C'est aussi simple que ça.
Si je te pose une question par rapport au Canadien et Marc Bergevin, là, si Marc Bergevin et continue d'être patient, seulement se concentre à être patient avec le développement de Kotkaniemi, de Ryan Poehling et des autres, et prend pas de raccourci via le marché des joueurs autonomes. Mmh. Penses-tu que le Canadien est menacé de rater s'il rend encore une coupe d'année?
Ben moi, je pense que oui. J'ai lu une entrevue dans Athletic là, aujourd'hui. Puis Jeff Molson disait ça, que bon, ben ok, des fois, c'est mieux de souffrir maintenant et d'avoir du plaisir plus tard, tu comprends? Alors, c'est un peu ça la philosophie, mais encore une fois, moi, je fais confiance à Marc Bergevin. Oui, on veut développer nos jeunes, puis Jeff le mentionnait, bon, les jeunes vont arriver, Poehling, Suzuki et compagnie, avec ce qu'on a présentement. Sauf que si on veut adhérer aux séries plus rapidement, c'est sûr qu'il va falloir que Marc fasse un move, une transaction importante au cours de la saison estivale. Comme j'ai dit tantôt, la plupart du temps, surtout l'été passé, je pense que Bergevin a fait vraiment un travail magnifique. Tu sais, en échangeant Pacioretty, en échangeant Galchenyuk, ce qu'on a reçu en retour a été vraiment là un pas vers l'avant, même deux pas vers l'avant. Pour, espérons, l'année prochaine, que le Canadien fasse des séries éliminatoires.
Je te pose la même question qu'à Danny Dubé hier. Oui. Si tu sais qu'Eric Carlson est peut-être intéressé à recevoir une offre de ton organisation, même si t'as un autre défenseur droitier, est-ce que tu y vas?
Ben, moi, c'est sûr, pour Eric Carlson, c'est sûr que je lui ferai une offre mirobolante, là, pour essayer de l'amener chez nous. Je t'ai démentionné la semaine dernière. Quand un gars de ce calibre-là, sur le marché des joueurs autonomes, c'est sûr que Bergevin va tout faire en son possible. Il y a de l'argent.
Ça serait gros, Carlson. Non,
ça serait gros, puis ça serait énormément positif pour les partisans, et non seulement pour les partisans, mais aussi pour les joueurs des joueurs de la formation du Canadien pour l'an prochain. Imaginez-vous, demain matin, on nous annonce qu'on a signé Eric Carlson.
Boom!
On va faire quoi? On va être vraiment, mais vraiment content. Mais hein, on voit que la saison commence.
L'été
déjà,
va être trop long, mais... c'est jamais trop long, un été, par exemple.
Alors, c'est sûr que c'est... Qu'est-ce qu'il dit, Danny, lui?
Danny est favorable à ça également.
Ah oui, c'est sûr.
Martin McGuire s'est prononcé là-dessus également soirée hier avec Jérémy. Ben, je pense qu'on est tous favorables. Pour moi, en santé, c'est un des meilleurs joueurs encore de la Ligue nationale, toutes positions confondues.
Ah oui, c'est sûr. On le dit souvent, là, il n'y a pas de joueur parfait. Mais on regarde, là, Eric Carlson qui est capable de jouer au hockey, cette année.
Même blessé.
Il a quand même connu une pas pire saison. Il a manqué plusieurs matchs. Mais, non, Eric Carlson à Montréal, mon chum, là, ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Puis, sais-tu quoi? Si ça, jamais ça arrivait, il y a d'autres choses qui pourraient arriver aussi. Tu sais, qui aurait pensé qu'on aurait pu avoir Domi pour Galchenyuk? Tu sais, puis on regarde la saison que Max a connue. Dis-toi, l'année pas l'année auparavant, il avait marqué quoi? Une dizaine de buts. Et cette année que le Canadien, il a vraiment là, pris son envol. Alors, puis je lisais un commentaire de lui avant-hier, où il mentionnait que Il est tanné de rater les séries éliminatoires. Ça fait 4 ans qu'il est dans la Ligue nationale, qu'il a pas touché aux séries éliminatoires. Alors, c'est sûr que l'année prochaine, ils vont arriver, ils vont avoir plus faim. Ces jeunes-là vont avoir pris de l'expérience, mais ça va leur prendre de l'aide. Pas de doute là-dessus, ça va leur prendre de l'aide.
On va rêver à tous ces scénarios-là pendant la fin de semaine, mon cher Mario. Bon golf, bon week-end, et puis bon hockey match numéro 3 demain.
Toujours un plaisir, mon Mario.
Merci, Maire.
Bonne soirée.
Bonne soirée à toi aussi. Au retour de la pause, les propos de Rémi Garde sur l'absence prolongée de Nacho Piatti. Philippe Quentin également à venir tout de suite après les nouvelles de 19h.